Audiolib présente Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina, traduit de l'italien par Marianne Forobert, lu par Clara Brightman. À Ryosuke, à Sosuke et à Emilio, aux voix qui toujours vous accompagneront. C'est un passage d'une forme de vie à une autre, un concert dont seul l'orchestre change. Reste la musique, toujours là. Mariangela Gualtieri. Lève-toi, vent du nord, et viens. Viens, vent du midi, souffler dans mon jardin et que ses parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange ses fruits exquis. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. Alors, n'offre pas l'amour à la hâte. Kojiki. Cette histoire s'inspire d'un endroit réel situé au nord-est du Japon dans la préfecture d'Iwate. Un jour, un homme a installé une cabine téléphonique dans le jardin de sa maison au pied du Kujirayama, le mont de la baleine, tout proche de la ville d'Otsuchi, l'une des régions les plus touchées par le tsunami du 11 mars 2011. À l'intérieur, un vieux téléphone noir qui n'est pas branché emporte les voix dans le vent. Des milliers de personnes s'y rendent en pèlerinage chaque année. Prologue. Une trombe d'eau gifla les plantes du vaste jardin escarpé de Belgardia. D'instinct, la femme leva un coude pour se protéger le visage et se courba vers l'avant. Mais bien vite, elle reprit ses esprits et se redressa. Arrivée avant l'aube, elle avait vu monter la lumière, mais le soleil était resté voilé. Elle avait déchargé les gros sacs de sa voiture. Un rouleau de 50 mètres d'une épaisse bâche en plastique, du gros ruban adhésif isolant, 10 boîtes de piquets de fixation à planter dans le sol et un marteau à manche fin. Chez Conan, l'énorme supermarché de bricolage, elle avait tressailli quand le vendeur lui avait poliment demandé de lui montrer sa main pour en mesurer la taille. Elle se hâta de rejoindre la cabine téléphonique. Elle lui paraissait si fragile, comme faite de sucre filé ou de meringue. Le vent virait déjà à la bourrasque. Il n'y avait plus de temps à perdre. Pendant 2 bonnes heures, ils furent 2 à travailler sans relâche sur la colline d'Otsuchi. Elle, enveloppant de bâches la cabine, le banc, le panneau d'entrée et la petite arche qui annonçait le sentier, et le vent, qui pas un instant ne cessa de la tourmenter. Par moments, sans y penser, elle serrait ses bras autour d'elle, comme elle le faisait depuis des années quand l'émotion la submergeait. Mais très vite, elle se redressait, défiant l'armée de nuages qui remplissait maintenant entièrement le ciel au-dessus d'elle. Elle s'arrêta lorsqu'elle sentit sur sa langue le goût de la mer, comme si le monde, en basculant, avait propulsé l'air marin dans les hauteurs. Alors elle tomba, épuisée, sur le banc enrobé tel un cocon de verre à soie, les semelles lourdes de terre. Si le monde s'effondrait, se dit-elle, elle s'effondrerait avec lui. Mais s'il restait une infime possibilité de le faire tenir debout, fût-ce en équilibre instable, elle consacrerait ses dernières étincelles d'énergie à l'y aider. En bas, la ville dormait encore. Des lampes s'étaient allumées ici et là derrière les rares fenêtres dont les habitants n'avaient pas fermé les volets. À cause du typhon imminent, la plupart d'entre eux avaient renforcé les volets roulants avec des planches et entassé des sacs de sable contre les portes pour éviter que le vent déchaîné ne les arrache. Mayu y semblait indifférente à la pluie et à ce ciel descendu jusqu'à ses pieds. Elle contempla son œuvre. Les voiles de plastique entortillées et fixées au ruban adhésif autour de la cabine, du banc de bois, de la file des lattes du sentier, de l'arche de l'entrée et du panneau qui annonçait le téléphone du vent. L'ensemble était déjà criblé de gouttes boueuses. Si malgré tout le typhon en arrachait des pans, elle serait là.